Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL et on file à Londres où la couronne se bat contre le cancer. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Ces deux derniers mois ont été très difficiles pour notre famille. En janvier, j'ai été opérée à l'abdomen à Londres. À ce moment-là, on pensait que la maladie n'était pas cancéreuse. La chirurgie était un succès, mais des tests ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale a pris la décision de me mettre sous chimiothérapie préventive. J'ai donc commencé le traitement et c'était un grand choc. William et moi faisons tout pour garder ça privé, pour le bien de notre famille. Sa dernière apparition publique officielle remontait à la messe de Noël de la famille royale à Sandringham. Depuis, Kate Middleton, la princesse de Galles, parfaite et aimée de tous, dont les moindres gestes, regards, bijoux, chapeaux étaient scrutés par les médias, Kate Middleton avait disparu et restait introuvable. Et puis cette photo retouchée qui va embraser la complosphère. Et puis ces rumeurs, tantôt loufoques, tantôt nauséabondes, qui la contraindront à l'annonce implacable, renvoyant l'imbécile à sa bonne conscience, pendant que l'on glose sur sa mort ou sur les infidélités du prince William. La princesse, elle, lutte contre un cancer. Une séquence bouleversante qui vient clouer le bec des ignorants et clore de longues semaines de cafouillage médiatique. Ce soir, anatomie d'un fiasco de communication avec notre invité. Pauline Soualé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de service au magazine Point de Vue. Prendre la parole, il n'y avait plus que ça à faire pour Kate Middleton ?
Oui, probablement, mais je pense que c'est aussi un choix qu'elle n'a pas eu tout de suite, mais qu'elle a, au bout d'un moment, perçu comme inéluctable et qu'elle a décidé d'assumer pleinement. Et de ce fait, ce fiasco de communication que ça a été pendant plusieurs semaines, comme vous l'avez souligné, devient tout d'un coup une reprise en main extraordinairement digne, maîtrisée, assumée, et ça renverse un petit peu tout ce que ça avait pu susciter ces dernières semaines. Donc, je pense qu'elle en a senti la nécessité à plusieurs points psychologiques, et puis il lui fallait aussi du temps, peut-être elle-même, pour digérer la nouvelle sur sa propre santé avant de pouvoir en parler aussi sereinement et avec beaucoup de force que la manière dont elle l'a faite mercredi.
On va parler pendant toute cette émission aussi de la communication de Kensington, parce que là il s'agit de Kensington. Buckingham c'est pour le roi, Kensington c'est pour le couple princier de Galles, c'est ça ?
Absolument, d'accord. Les bureaux sont bien séparés et parfois ils ne sont pas d'accord.
Alors justement, on en parlera, mais ce qui nous intéresse aussi c'est l'indépendance des membres de la famille royale et notamment l'indépendance de Kate. Elle a été, je disais, contrainte à prendre la parole. Il y a aussi des employés de la London Clinic qui avaient tenté de consulter son dossier médical sans y être évidemment autorisé. Donc on sentait la menace finalement d'une information qui ne serait pas maîtrisée par Kensington. Il s'agit, on y reviendra, de l'un des pires fiascos des services de com quand même du palais. Est-ce qu'on sait véritablement si c'est elle qui a voulu prendre la parole ?
Oui. Ça, on sait, et on sait surtout qu'elle a écrit son communiqué elle-même. D'accord. Elle en a choisi les moindres mots et ils sont vraiment pesés au trébuchet. Et personnellement, franchement, je les trouve absolument à la fois percutants, profonds et très émouvants. Donc je pense que toutes les cibles de communication sont atteintes. Et ça n'a pas été révisé par aucun service de com. En revanche, ce qu'on peut penser, c'est que oui, son secrétaire privé, le secrétaire privé du prince William, devait, au fur et à mesure que les choses montaient, que les trolls se déchaînaient sur les réseaux sociaux, que les rumeurs les plus absurdes et, comme vous l'avez dit, parfois assez détestables circulaient, on sentait bien qu'il fallait reprendre en main la communication. Je pense qu'elle, ce qu'elle a voulu faire, c'est maîtriser absolument son tempo. Le moment où elle-même était prête à le faire à la fois physiquement, psychologiquement et moralement.
Bien sûr.
Et surtout, elle l'a dit elle-même, le moment où ses enfants pourraient être protégés pendant 3 semaines, puisque la vidéo est sortie vendredi soir au moment où il y a des vacances de 3 semaines pour ses enfants, donc ils seraient à l'abri de tout ce qu'ils peuvent entendre à l'école et dans les médias.
C'est pour ces raisons que le palais avait démenti le cancer à un moment donné, quand la rumeur circulait ?
Alors ça, est-ce que c'est parce que à l'époque même, le diagnostic était encore trop peu fiable, que c'est pour ces raisons. C'est vrai que ça a été démenti en off et non pas par la voix officielle. Et c'est vrai qu'il y avait cette situation un petit peu totalement inédite et incroyable du roi Charles qui, dans le même temps, lui, annonçait son cancer. Donc, est-ce qu'ils se sont dit, Elle est trop jeune, elle a des enfants, ça va être un choc beaucoup plus grand, parce que malgré tout, même si le choc du cancer du roi en est un, c'est un homme de son âge, on savait qu'il avait divers problèmes de santé, c'est quand même moins bouleversant que dans le cas de Kate. Moi, je pense que c'est un petit peu des deux. Et surtout, c'est vrai que le prince William, il a été extrêmement traumatisé par ce qui est arrivé à sa mère, et il veut absolument protéger sa famille, dresser un cordon sanitaire. Et je pense qu'à l'époque, il n'était pas prêt, et c'est bien normal, à en dire autant. Et les choses ont évolué depuis.
Cette pression qui a été exercée sur la princesse, puis cette vidéo, cette annonce, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire aussi quelque part que Kate Middleton n'est plus une intouchable, je dirais, parce qu'elle avait quand même traversé toutes les tempêtes de la monarchie britannique, parce qu'on peut dire, et on va y revenir, que la monarchie, c'est quand même Dallas hein, depuis quelque temps, entre le départ d'Harry, les maladies, un suicide dernièrement, l'annonce de Kate, enfin bon, on a l'impression que c'est quand il se passait énormément de choses, on va dire, au château. Et Kate avait tout traversé, sans jamais voir son image fragilisée.
Alors, elle a gagné ce statut d'intouchable, mais au début, il ne faut pas oublier que ça fait 20 ans, ces jours-ci d'ailleurs, que la première paparazzade qui révélait sa relation avec le prince William est sortie en Angleterre. Et au tout début de leur relation, elle a été pourchassée par les paparazzi. Elle a été, on l'a surnommée Waity Katy quand le prince William a pris quand même beaucoup de temps avant d'officialiser, puis d'annoncer leur fiançailles,
oui,
etc.
Donc elle a subi ça.
Elle
n'a
pas été ménagée, mais en revanche, elle a toujours extrêmement bien géré ça. C'est-à-dire que je disais que justement un ancien secrétaire particulier de la reine Elisabeth, qui était un petit peu son coach informel à l'époque, disait dès qu'elle était pourchassée, qu'il y avait des situations qui pouvaient devenir compliquées, elle appelait, elle disait « qu'est-ce que je fais ? Un grand sang-froid, une grande maîtrise ». C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'elle a voulu reprendre en main, parce que c'est vrai que ça lui ressemblait pas, cette absence, cette disparition. Et puis, pour quelque chose que moi je trouve très intéressant sur la monarchie britannique, ce qui a suscité aussi tout ça, c'est qu'on ne la voyait pas, alors qu'on voyait le roi Charles, et que vous savez, la reine Elisabeth disait « il faut que je sois vue pour être crue ». Dans la monarchie britannique, quand on ne vous voit plus tout d'un coup, eh bien c'est la place à toutes les rumeurs et on a moins de légitimité.
Et c'est dire si les choses évoluent et changent, on y reviendra. En deux mois, Kate Middleton est devenue donc l'objet de tous les complots. Les rumeurs les plus folles ont couru sur les réseaux sociaux, agrégées sous le nom de Kate-spiracy ou Kate et Conspiracy. Les complotistes ont pris leur pied pendant des semaines. On va y revenir avec vous dans un instant. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
Une information en provenance du Royaume-Uni. La princesse Kate est rentrée chez elle. Vous savez qu'elle a été hospitalisée il y a une quinzaine de jours maintenant pour une intervention chirurgicale abdominale. On ne sait pas exactement de quoi souffre la princesse. C'est la fête des mères aujourd'hui au Royaume-Uni. C'est une photo de Kate Middleton, parfaite, tout sourire avec ses enfants.
Voici ce que les experts ont remarqué. La fermeture éclair et les cheveux sont mal alignés. Il manque une partie de la manche de Charlotte. Ce sont des erreurs de Photoshop.
C'est une nouvelle qui vient de tomber. La princesse Kate a annoncé souffrir d'un cancer.
C'est une succession de rebondissements. Avant l'annonce, vendredi dernier, en toute fin de journée, une annonce qui a laissé l'Angleterre et le monde entier sans voix. La princesse de Galles, Kate Middleton, se bat contre un cancer. Pauline Sommelet du magazine Point de Vue est notre invitée justement pour en parler. Pauline, qu'est-ce qu'elle représente, Kate Middleton, pour la presse ?
Alors, pour la presse, déjà, comme c'est une jeune femme qui est quand même extrêmement élégante, extrêmement jolie, c'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais c'est une bonne cliente, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va apparaître, on décrypte ses looks, elle a une attitude quand même, en général, assez irréprochable, elle a su conserver un vrai mélange d'adaptation totale aux circonstances les plus officielles et de naturel et de simplicité avec ses enfants, donc elle est plutôt très appréciée par la presse en général.
Et donc, est-ce que les ventes décollent quand on met Kate en une ?
Oui, indéniablement, vous allez faire des unes quand même un petit peu plus glamour que quand c'est le roi Charles et la reine Camilla, même si on les aime beaucoup et ils sont. En fait, la famille royale britannique, c'est le sujet principal des tabloïds pour lequel les unes ne sont pas forcément glamour. Donc, de toute façon, ce sont quand même les principaux acteurs de la monarchie. Donc, tous leurs faits et gestes sont scrutés et représentent quand même, en effet, une source de feuilles et d'articles.
Mais Kate Middleton, c'est un joyau pour la famille princière.
Oui,
La famille royale,
oui.
C'est le joyau, c'est sur elle que reposent beaucoup de choses en termes de communication, de storytelling, de glamour. Et puis c'est une princesse qui s'est tellement bien faite à son rôle quand c'est, d'autres
c'est
se sont rebellés.
C'est d'autant plus, vous parlez de joyau, moi je parlerais de pilier parce qu'on est bien conscient que William n'accepte son destin que grâce et parce qu'elle est là. C'est-à-dire qu'ils ont construit un couple en étant totalement conscients de la charge qui les attendait. Je ne pense pas que le prince William était quelqu'un qui avait une folle envie et qui ait des aptitudes au départ extrêmement faites pour ce rôle public qui est quand même très exigeant. Et la présence de Kate à ses côtés l'a vraiment rassurée. On sait que sa famille aussi lui a apporté le cocon familial dont il a cruellement manqué quand il était enfant. Donc c'est un couple. C'est pas comme Charles, même si Charles et Camilla sont aussi à leur manière un autre couple très emblématique. Mais Charles, ça a été un personnage seul, extrêmement traité par les médias. Il a construit, il a toute une histoire avec les médias britanniques. Seul, William, c'est William et Kate. C'est indéniable. Et je pense que tout le monde en Angleterre sait que c'est comme ça que la monarchie pourra continuer, avec eux deux.
Et avec, en plus, le prince Harry qui est parti vivre donc sous le soleil de la Californie avec Meghan Markle.
Oui,
donc, en fait, on prendra des nouvelles tout à l'heure de la monarchie britannique. Mais enfin, ça rigole pas tous les jours en ce moment.
Hein. Non, et en plus, on comprend bien que l'absence de Harry, elle est d'autant plus cruelle et cruciale aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a Charles en retrait parce qu'il est malade, qui est en retrait pour de longs mois parce qu'elle est malade, et ben la monarchie resserré que voulait Charles, le pauvre il l'a, et en même temps ça fonctionne pas très bien parce qu'il faut assurer le travail qu'ils font quotidiennement.
Bon, alors on a tout entendu, on a tout lu avant que Kate Middleton le cloue le bec à tout le monde, et de la façon, je dirais, la plus noble qui soit, des rumeurs les plus crédibles à d'autres beaucoup plus loufoques. Petit florilège sur le plateau de Bonjour sur TF1 avec Christophe Beaugrand.
Kate serait en dépression nerveuse et internée de force dans un hôpital psychiatrique.
Okay.
Kate aurait fait une chirurgie esthétique ratée, donc il serait impossible qu'elle apparaisse de nouveau, qu'elle montre son visage en public. Et puis alors pire, Kate serait morte selon certains...
Carrément.
Ah oui, non, sur certains comptes Twitter, c'est assez incroyable.
Ça va loin.
Ils affirment que son corps aurait été vu dans un crématorium lors d'une cérémonie familiale secrète.
Voilà, c'est nauséabond, c'est moche. C'est la faute à qui et à quoi tout ça? Est-ce qu'on peut parler d'un fiasco de la com' de la couronne?
Oui, c'est quand même la faute à une communication qui n'a pas été assez proactive au début, qui n'a pas été assez présente. Un exemple tout simple, encore une fois, c'est terrible, mais la nature a horreur du vide. D'ailleurs, les rumeurs de divorce avec la marquise de Cholmondeley, elles avaient
déjà... Alors, on va expliquer de quoi il s'agit, hein, parce que c'est...
Oui, c'est-à-dire qu'une des principales hypothèses formulées, c'était que Kate était en burn-out parce que William la trompait avec une de leurs amies proches, en plus.
Ça fait trois ans que la rumeur court.
Ça fait trois ans que la rumeur court, et la rumeur, elle ressurgit toujours quand William et Kate sont un peu moins présents. Et ça, c'est terrible, parce que c'est vraiment la machine à broyer médiatique qui a besoin de mettre un jeton dans la machine tous les matins pour vendre du papier. Ça, c'est vrai qu'on est vraiment dans la partie la moins belle des tabloïds britanniques. Mais pour autant, c'est vrai qu'une fois qu'elle a été sortie de l'hôpital... Il y a toujours, donc, la rumeur, elle prospère sur un vide médiatique. Et on voyait, par exemple, son beau-père qui était malade aussi, mais qui faisait des petites vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il lisait les cartes de bon rétablissement des Britanniques, etc. Et Kate, il n'y avait pas ça, il n'y avait rien. Il y a eu, à un moment donné, un jour, le prince William qui devait se rendre à une messe célébrée en l'honneur du roi de Grèce qui est mort l'an dernier, et il y avait toutes les familles royales européennes qui étaient là, donc c'était une cérémonie très importante. Il devait prendre la parole pour une lecture publique, son nom était vraiment annoncé sur le livret de la cérémonie. Il vient pas 15 minutes avant en disant « problème personnel ». Ça commence tout d'un coup, on commence à trouver ça très étrange, et même les journalistes, là, les plus sérieux, c'est-à-dire ceux qui ont complètement respecté le deal de dire « elle est malade, elle est restée 13 jours à l'hôpital, elle a besoin de se remettre, respecter notre famille, nos enfants ». Ça, il faut savoir qu'il y a quand même aussi toute une partie de la presse britannique qui le respecte, qui aime beaucoup Kate, comme vous le soulignez, et qui n'aurait jamais poussé à plus de communication s'il n'avait pas senti qu'il y avait quand même un problème de réalité par rapport à ce qu'on nous vendait, entre guillemets.
On va se retrouver dans un instant, Pauline Sommelet. On va revenir sur les différents rebondissements de cette triste histoire, de l'annonce de l'opération de Kate à celle, alors quasiment dans la foulée.
Alors oui, il y a eu très peu de...
Du cancer de Charles.
Très peu de temps, et c'est vrai qu'on a tous eu cette impression de mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, c'est vraiment...
Voilà.
La série noire et une autre Anus Horribilis qui commence.
Voilà, donc de l'annonce des deux cancers à la fameuse photo retouchée qui va embraser la toile et faire naître une galaxie de rumeurs, Buckingham semble avoir perdu sa couronne de la communication. On en parle dans un instant avec vous sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Pauline Sommelet, qui est chef de service au magazine Point de Vue, est notre invitée. Je ne vous demande pas qui fait la une de Point de Vue cette semaine.
Ce qui est fou, c'est qu'on avait déjà une qui se... Donc, le numéro qui était en vente en kiosque cette semaine, c'était « Stop au harcèlement, Kate ». Donc, on était quand même assez dans une réalité confirmée. Et la une de demain, c'est bien évidemment cette photo extraite de ces vidéos qui nous a tous bouleversés, il faut bien le dire, et qui, pour nous, restera une historique.
Voilà, la princesse de Galles annonce son cancer. Kate, le courage. Est-ce que vous pensez, Pauline Sommelet, que la façon dont les services de communication de Buckingham ont géré l'affaire Kate Middleton sera étudiée dans les écoles de communication comme l'exemple précis de ce qu'il ne faudra jamais faire à l'avenir ?
Je ne sais pas si on pourra... C'est un petit peu dur, je trouve, de les accabler, parce que c'est vrai que c'était quand même des situations très particulières. Et vous parlez de Buckingham, donc je vous reprends, c'est donc Kensington pour Kate et William et Buckingham pour Charles et Camilla. Mais c'est très intéressant parce qu'en effet, sur cette séquence, Buckingham a très bien géré. Il n'y a eu aucun problème dans l'annonce du cancer de Charles, et c'est même, je pense, une communication qui lui vaut, et par sympathie, par compassion, mais ça a été très bien fait. Et Kensington, ça a plus qu'à fouiller. Mais il y a plusieurs raisons à ça.
Alors, on va parler des raisons. Mais déjà, je voudrais que l'on explique à nos auditeurs comment ça se passe, la communication dans cette famille. Parce que vous me reprenez à juste titre en disant Buckingham a bien géré l'annonce du cancer de Charles, mais Kensington a foiré l'histoire avec Kate. Mais en même temps, il ne communique pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même la monarchie et la couronne dans sa globalité qui s'exprime.
Oui, mais ils sont au service de personnalités différentes. Et ça a toujours été. C'est-à-dire que quand Charles n'était que le prince Charles, il y avait d'énormes problèmes de communication entre Buckingham et Clarence House, qui était son bureau. D'accord. À l'époque, parce qu'ils n'avaient pas forcément la même façon de communiquer, les mêmes envies.
Ils se parlent.
Ils se parlent, bah, vous savez, c'est un peu comme dans toute entreprise, on connaît ça parfois.
J'allais dire la firme.
Il y a des bureaux qui sont censés très bien communiquer, puis parfois vous apprenez quelque chose comme ça dans un mail.
Mais ça veut dire que Charles, par exemple, n'avait absolument aucun regard sur la communication concernant Kate, parce que ça a forcément un impact
Il a très certainement un avis, un regard, des conseils qu'il exprime plutôt d'ailleurs à son fils. Et après, les services de communication se parlent entre eux. Mais William, il est maître de sa communication. Et vous vous souvenez, à l'époque du Mexit, on avait assisté aussi, au départ, ils n'avaient qu'un seul bureau pour William, Kate, Harry et Meghan. Et tout d'un coup, les bureaux ont splitté. Et c'était parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes caractères et aussi les mêmes façons de communiquer.
Alors, pardon d'être encore surprise, mais je me dis, mais si Kensington gère la com de Kate et de William et que de l'autre côté, Charles et Camilla gèrent la leur à Buckingham... Les décisions prises par Kensington ont un impact sur la monarchie britannique. C'est-à-dire que ce cafouillage-là vient aujourd'hui entacher l'ensemble de la monarchie britannique, non ?
Oui, mais ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire, on ne peut pas tout maîtriser. D'accord. Et ça fait partie aussi de ce qui est toujours passionnant, je pense, dans une monarchie, c'est que c'est une institution avec des règles, mais derrière, il y a des humains. Et la manière dont ils vont avoir envie d'appréhender ça, vous savez, justement, quand il y a eu le Mexit,
C'est le départ de
Harry et Meghan de la famille États-Unis. Royale. Ils s'en sont beaucoup plaints quand ils ont fait leur fameuse interview à Oprah Winfrey. Ils ont dit, cette institution, c'est terrible, on est bâillonnés, on est verrouillés, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Bon, ce qui était, à mon sens, très exagéré, parce que quand même, la communication aujourd'hui, elle est moderne, ils ont des outils, ils maîtrisent quand même d'habitude très bien les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir aussi que les deux secrétaires particuliers de William et Kate sont des gens qui sont arrivés très récemment à leur service, ce sont des gens très expérimentés. Ouais. Et puis, il y a ce que vous savez, quand vous êtes... moi, je n'ai jamais travaillé pour un service de communication, mais j'imagine, il y a ce qu'on préconise, et puis il y a après ce que les gens veulent bien faire. William, on sait qu'il peut être extrêmement obstiné. Et moi, je pense qu'au début, il a dit... silence radio, je ne veux rien dire, je ne veux rien faire, et que je pense que Kate, elle était en train de digérer son truc et qu'elle avait d'autres choses à penser. Et petit à petit, d'abord, elle, je pense qu'elle a observé ce qui se passait avec le roi Charles, qui était un rôle extrêmement positif de sa communication auprès de la population, qui allait plus s'informer. Tous les sites de renseignement sur le cancer ont doublé d'audience, etc. Donc,
et puis c'est terrible, ils ne pouvaient pas annoncer leur cancer en même temps. Enfin là, pour le coup, d'un point de vue...
Oui, il y avait cet effet de trop-plein de surplus qui nous stupéfie, nous. Donc je vous laisse imaginer... eux. Et franchement, William, c'est vrai que en analysant leur communication ces dernières semaines, on l'avait un peu critiqué, on se disait voilà, c'est sûrement lui qui est un peu rigide, etc. Moi, aujourd'hui, le prince William, j'ai juste envie de lui envoyer des bouquets de fleurs et des petites pensées, parce qu'il traverse quelque chose qui est complètement vertigineux. Son père est malade, sa femme jeune est très malade, il a 3 enfants en bas âge qu'il doit protéger. Vous parliez tout à l'heure d'un suicide, mais c'est vrai que sa cousine Gabriella Windsor, qui est une amie d'enfance dont il est très proche, a perdu il y a 3 semaines son mari, 45 ans. Ça n'a pas été dit que c'était un suicide, mais de toute évidence, c'est un suicide. Donc, en fait, c'est une succession de drames. Son frère, qui était quand même s'ils ont toujours eu des relations complexes, est parti et leur a fait quand même des coups assez pondables ces derniers temps en critiquant justement sa femme. Bon, on peut aussi leur pardonner d'avoir mal géré, parce que finalement, je crois qu'ils étaient tout simplement très désarmés.
Pauline Sommelet, on se retrouve dans un instant. On va voir ensemble les différentes étapes de ce fiasco, en tout cas de communication. Et puis alors moi, j'ai une question qui vraiment me taraude. C'est vraiment la princesse qui retouche ses photos ? Parce que ça, j'ai eu du mal à gober. Bon, vous allez me répondre dans un instant. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Tout a commencé comme ça. C'était le 29 janvier dernier. Lisa Marie Marquez dans RTL Midi.
Annonce du palais de Kensington. La princesse Kate, épouse de l'héritier de la couronne britannique William, a quitté l'hôpital de Londres ce matin, où elle était hospitalisée depuis le 16 janvier pour une opération chirurgicale de l'abdomen. Sa convalescence devrait durer au moins jusqu'à Pâques, a prévenu le palais, qui n'a toujours pas donné de précision sur le mal dont souffre la princesse.
Pauline Sommelet, vous êtes notre invitée, vous êtes chef de service donc au magazine Point de Vue. Quand vous avez cette information-là, vous pensez à quoi à Point de Vue ?
Alors, le moment où elle sort de l'hôpital, là, très précisément, on est au courant, on sait, puisqu'ils ont annoncé. Et à l'époque, ce qui nous a tous fait tilter un peu plus tôt, c'est 13 jours, enfin, ils avaient annoncé, je crois, 15 jours, finalement, ça a été 13. 13 jours d'hospitalisation. 13 jours d'hospitalisation,
c'est pas rien.
On sait tous que c'est pas rien. Elle a 42 ans, elle est dans une forme athlétique, elle fait au moins 1 heure de sport par jour, donc qu'est-ce que ça peut être ? Et évidemment, ça s'emballe un petit peu, on se dit c'est quand même sérieux. Après, elle disparaît. Et là,
alors personne ne met, au moment où elle sort quand même de l'hôpital, personne ne met en doute le message officiel du palais.
Non, voilà. Il n'y a pas de raison de le faire à ce stade.
D'accord. Au début du mois de mars, le ministère de la Défense britannique fait une bourde.
5 mois après son opération, elle reprendra ses engagements officiels le 8 juin, précisément pour la parade militaire Trumping the Colors, une date qui ne fait que susciter l'inquiétude, puisque dans un premier temps, il avait été dit que Kate serait de retour à Pâques.
Et là, ça commence à cafouiller dans les dates, et le ministère de la Défense britannique, qui d'ordinaire, c'est précisément ce qu'il diffuse comme information, rétropédale.
Absolument. Et alors, c'est vrai que c'est plus complexe que ça. Quand elle sort de l'hôpital, on nous dit qu'elle reviendra à Pâques.
Voilà.
Ok, très bien. Et ensuite, il y a cette information sur Trooping the Colour.
Voilà, juin, donc le 8
donc
juin.
On se dit déjà juin, c'est tard. Et en plus, ils annulent. Donc, ça double encore plus l'inquiétude, puisqu'on se dit c'est même pas juin, puisqu'il y a ce rétro-pédalage. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où, je pense, les médias sérieux commencent à trouver ça bizarre et à questionner. Et c'est à partir de là qu'il y a d'ailleurs plusieurs, entre guillemets, fausses paparazzades. Enfin, c'est pas des fausses paparazzades, mais enfin, c'est des photos volées qu'on laisse publier. Alors, c'est un média américain qui commence avec cette photo où on
la
voit
voiture.
Dans la voiture avec sa mère.
Voilà.
Mais bon, photo qui n'est pas du tout rassurante, parce que elle a le visage très fermé. Sa mère a un visage extrêmement fermé. Bon, on se dit, ok.
On sait aussi comment sont choisis les paparazzades. Quand on décide de vous démonter, on vous démonte.
C'est vrai aussi.
Une bonne photo avec une bonne sale gueule et on dit que ça va pas.
Oui, et puis surtout, c'est vrai que là où vous avez raison, c'est que quand quelques semaines plus tard, ils vont faire cette vidéo, enfin, il va y avoir cette vidéo qui est diffusée un peu pour rassurer à Windsor le week-end avec William.
Oui, ils viennent de faire leur course, elle est hyper souriante.
Elle est souriante, elle est très mince. C'est quand même un petit peu inquiétant. Mais là, comme vous dites, il y a quand même une partie des réseaux sociaux qui qui commence à dire c'est pas elle, etc. Donc en fait, ça ne va jamais. Et c'est là que je pense qu'ils réalisent vraiment que cet engrenage de mauvaise communication, ça n'ira jamais. On va publier une photo pour la fête des mères, eh ben non.
Alors justement, cette photo pour la fête des mères, c'était le 10 mars. Une photo de la princesse de Galles. Elle est tout sourire, elle est entourée de ses enfants et diffusée donc pour la fête des mères britanniques. Le cliché qui est censé calmer les esprits trop curieux et faire taire les rumeurs va mettre le feu aux poudres partout dans le monde et sur la BBC.
Elle se voulait rassurante, mais cette photo de la princesse de Galles et de ses enfants a été retirée du catalogue de plusieurs agences de photos du monde entier, craignant qu'elle ait été manipulée.
Alors, je dois confesser que cette photo, je suis allée la voir, Pauline Sommelet, et que j'ai évidemment zoomé sur les parties incriminées par les services de communication et par les agences de presse. Alors moi, je suis infoutue de voir une photo retouchée. Mais c'est incroyable que les agences de presse, et ça s'était jamais vu, refusent une photo en disant que c'est une fausse information que diffuse Kensington.
Oui, et ils l'ont refusée pour une raison précise. Ce qui était, on ne peut pas accréditer l'idée que est censé véhiculer cette photo, c'est que Kate va aussi bien que ce cliché-là qu'on nous montre. Parce qu'ils se doutaient bien, c'était pas le fait que la photo soit retouchée en tant que telle,
voilà,
parce
c'est que, ça que j'ai pas compris.
Changer une position pour que les enfants soient au mieux, ils l'ont tous fait. Et les photos, ils l'ont déjà fait, et on a déjà diffusé ces photos sans aucun problème, parce que l'événement, c'était par exemple, je sais pas, un baptême ou je ne sais quoi, et on avait tous vu que l'événement avait eu lieu, donc il n'y avait pas de problème de véracité de la photo. Là, je pense que les agences, elles ont mis le holà, et c'était totalement inédit, et c'est vrai que c'est ça qui a complètement précipité la suite de la communication, parce qu'elles ont dit, et ils avaient raison, elle n'avait pas cette tête-là le jour de la fête des mères. Très probablement, c'est quelque chose qui avait été fait pour rassurer. Et donc, ils ne pouvaient pas, eux, en tant qu'organe de presse, en tant que journaliste, en fait, puisque les photos sont quand même aussi des éléments de l'information, diffuser. Et c'est là qu'elle a décidé de reprendre en main les choses, et elle a très bien fait.
Mais elle va déjà endosser la responsabilité de ses retouches. Alors, est-ce que franchement, c'est crédible? Moi, je n'imagine pas Kate Middleton sur son canapé le soir retoucher ses photos sur son téléphone pour les donner ensuite à son service de presse.
Alors, c'est difficile à dire. Et vraiment, moi, cette petite phrase de Kate, comme tout le monde, je m'essaie à Photoshop. J'ai trouvé que c'était vraiment la partie la plus, pardonnez-moi, mais vaseuse de leur communication.
Okay.
Pour autant, elle est quand même photographe. Elle signe la plupart... Non mais voilà, d'où le problème de cette photo. Parce que d'habitude, c'est vrai que c'est elle qui diffuse les photos de ses enfants pour la fête des mères, pour l'anniversaire de William, pour tout ça. Elle fait des très jolis portraits. D'ailleurs, on a interviewé aussi dans le numéro qui sort demain, Annie Leibovitz, qui a dit qu'elle trouvait qu'elle faisait des très jolis portraits. Donc c'est quand même pas rien, un compliment d'Annie Leibovitz. Et voilà, mais là, on sent bien que c'est parce qu'il y a autre chose qui cloche à ce moment-là.
On va se retrouver tout de suite, parce que l'annonce, on va pas y revenir, on le sait. Kate, donc... se bat contre un cancer. Est-ce que la monarchie est malade, elle aussi? Ça va être la question que je vais vous poser dans un instant. À tout de suite sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
J'ai devant moi donc deux couvertures. Le magazine qui sort demain de Point de Vue avec la princesse de Galles qui est une capture de la vidéo qu'elle a diffusée pour annoncer son cancer. Pauline Sommelet, vous êtes notre invitée. Et puis alors, j'ai un hors-série collector. Évidemment, j'allais vous poser la question où l'on voit donc les princesses de Galles, Kate Middleton, mais également sa belle-mère posthume, mais sa belle-mère donc Diana, et on ne peut pas s'empêcher de se dire aujourd'hui que le destin de ces femmes se rencontre en tout cas sur l'idée de la tragédie.
Oui, alors c'est un peu terrible pour nous parce que ce hors-série qui est déjà en kiosque, on l'avait prévu bien avant toute cette actualité, mais vous voyez, on le titre Kate, la force d'un destin, et on ne croyait pas si bien dire, et à vrai dire, pour être très honnête, on aurait préféré ne pas être autant dans cette actualité tragique, parce que ça en a quand même une. Après, le parallèle avec Diana, il se fait beaucoup là dans les journaux ces jours-ci. Il est pas du tout pertinent, puisque là, c'est une maladie et que par bien des aspects, Kate est l'anti-Diana. En revanche, c'est vrai que pour quelqu'un comme William, c'est vrai que ces annonces dramatiques font résonner des choses très difficiles. Et vous me posiez la question de la monarchie, est-elle malade ?
Oui, le roi Charles III qui est malade, la princesse de Galles qui est malade.
Moi, je pense que la monarchie n'est pas du tout malade. parce qu'elle sort renforcée. Au contraire, ils ont tous les deux, que ce soit Charles III ou Kate, ils forcent l'admiration, ils jouent leur rôle, et on sait que c'est aussi une des raisons qui a poussé Kate à parler, c'est qu'elle a vu que donc ça pousse les gens à aller se faire dépister, à entre guillemets détabouiser le cancer, et on sait à quel point elle est sensible aux questions de santé mentale. C'est elle qui avait encouragé William à parler du trauma de la mort de sa mère, etc. Donc je pense qu'elle-même dans sa tête elle s'est dit, mais si moi je parle, ça va me soulager, moi soulager aussi le tabou qui existe encore autour de cette maladie. En revanche, la monarchie, elle est fragilisée, oui, parce qu'il y a deux de ses piliers qui sont amoindris et qu'elle doit fonctionner avec ces événements dramatiques qui forcément ont des incidences sur l'énergie de chacun. Mais je pense que ça renforce aussi le soutien populaire. On a vu des manifestations de soutien à Kate. Et depuis le début, même à l'époque des complotistes, et même quand on ne savait pas que c'était un cancer, a priori en plus un cancer grave, on avait aussi une partie de la presse qui disait « I stand with Kate », qui démontait les fake news, etc. Donc il y a quand même aussi un effet vertueux de soutien.
Donc, une monarchie fragilisée qui n'en est pas à sa première épreuve, qui s'est toujours relevée, avec une princesse de Galles donc, qui vient d'annoncer son cancer. Est-ce qu'on va, pardon de le dire comme ça, mais lui foutre un peu la paix à la monarchie, vous pensez, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent? Est-ce que c'est quelque chose qui va être respecté?
Oui, je pense que vraiment, là, elle a coupé l'herbe sous le pied en donnant, en fait, la réponse à la question que tout le monde se posait et qui partait parfois d'un sentiment, légitime de se dire mais qu'est-ce qui lui arrive, et d'inquiétude. Alors, c'est pas foncièrement rassurant ce qu'elle a annoncé, la pauvre, mais on sait, elle le dit, je trouve extrêmement bien, elle dit je vais prendre le temps de me guérir, à la fois d'utiliser tous les moyens physiques, moraux, et elle parle de Saul aussi, si ma mémoire est bonne, de s'entourer au mieux, de se préserver, de se mettre dans un cocon, de s'occuper de ses enfants. Et là, je pense que vraiment, en tout cas, tout ce qui est la presse accréditée des journaux à la fois sérieux et de certains tabloïds, mais qui ont quand même leurs entrées et dont c'est le métier de rendre compte des faits et gestes de la famille royale, va profondément respecter ça.
Eh bien, souhaitons-le, en tout cas. Pauline Sommelet, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Merci à toute l'équipe de Jour J. Vous savez qu'on a une équipe royale aussi. Hein. Voilà, nous aussi, on est au château, au palais, avec la reine-mère, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Jonathan Griveaux, aujourd'hui aux manettes. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL et je vous dis à demain. Merci pour votre fidélité. Ciao.
Flavie Flamand sur RTL.
Jour J.